Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
Bonjour à tous, bienvenue dans Economia, votre rendez-vous hebdomadaire de l'économie et de la finance. Nous venons de vivre une semaine sous l'égide de la lutte contre l'inflation. Côté occidental, la Réserve fédérale américaine a annoncé une nouvelle hausse des taux d'intérêt, plus 0,50%, ce qui nous amène à des taux les plus importants depuis 22 ans, toujours pour lutter contre l'inflation galopante. Alors c'est vrai que l'inflation est contenue, mais maintenant l'argent est de plus en plus cher sur le territoire américain. La Banque Centrale Européenne, de son côté, a annoncé qu'elle pourrait également, on est encore au conditionnel, elle ne l'a pas encore fait, mais elle pourrait également prochainement augmenter ses taux d'intérêt, toujours dans l'objectif de lutter contre l'inflation. La zone euro a atteint un record d'inflation de 8,1% au mois de mai. Côté entreprise, on peut signaler que Elon Musk a finalisé son rachat de Twitter, alors pour 44 milliards de dollars, on connaît ces éléments, mais ça a été une saga juridique tout à fait mouvementée. Maintenant, il est aujourd'hui, depuis cette semaine, le propriétaire, heureux, espérons-le, de Twitter, qui désormais s'appelle X. Et puis, toujours l'actualité économique avec les conséquences de la guerre de la Russie en Ukraine. 2 ans après le début des combats, il y a toujours une déstabilisation des chaînes d'approvisionnement, ce qui impacte les systèmes alimentaires en Afrique et au Moyen-Orient. Un rapport vient d'être produit par le chercheur Clément Stuer, qui est tout à fait intéressant, qui a été publié à Europeum. C'est un document d'analyse de cet impact qui est, hélas, toujours permanent, toujours d'actualité, cette désorganisation des chaînes alimentaires qui impacte, hélas, l'Afrique, mais surtout, enfin, l'Afrique et le Maghreb. Nous allons donc en parler avec l'auteur, Clément Stuer, ce qui est quand même assez incroyable. D'abord, merci d'être avec nous, l'invité de Economia cette semaine. Ce qui est quand même assez étonnant, c'est que 2 ans après le début des combats, finalement, les gènes de la déstabilisation régionale, pour ce qui est des chaînes alimentaires, ces gènes de la déstabilisation dans ce secteur précis sont finalement toujours présents.
C'est toujours d'actualité parce que, alors certes, le conflit en Ukraine, donc il y a plus de 2 ans maintenant, avait entraîné une hausse des prix des céréales, hein, puisque l'Ukraine et la Russie sont les principaux exportateurs de blé au monde. Et que les pays du Moyen-Orient arabe sont parmi les premiers importeurs. Donc, ça avait, en particulier la Tunisie, l'Égypte, le Liban avaient été durement touchés par l'augmentation brusque des prix des céréales, ce qui avait entraîné une inflation et des pénuries, comme on le sait. Alors face à ça, il y avait eu 2 choses. Il y avait eu Black Sea Initiative, donc qui avait été l'initiative de la mer Noire, qui avait été un accord entre les Russes et les Ukrainiens pour laisser passer une partie des bateaux contenant les céréales, donc qui a fonctionné pendant plus d'un an, mais qui a été terminé par la Russie à l'été 2023. Et les routes de solidarité européennes, donc qui reroutent les céréales ukrainiennes par la terre à travers l'Union européenne. Donc ça a permis plus ou moins de mitiger les effets de cette hausse. Et aujourd'hui le plus dur, disons, est derrière nous. Hein. Les pénuries ont plus ou moins cessé. Les prix sont revenus dans une fourchette un peu plus acceptable. Donc la crise en elle-même semble terminée. Mais ce que cette crise a montré aussi, c'est la vulnérabilité du système, hein, finalement, alimentaire mondial. Comment il était très vulnérable à des chocs externes. Déjà, il avait été impacté par le Covid, la pandémie de Covid-19 en 2020. Donc ensuite, la guerre en Ukraine a été un choc assez brutal.
C'est terrible dans la région, bien sûr. Mais cela dit, vous parlez un petit peu au passé, alors que nous, dans nos régions, on sent quand même une tension par rapport à cette question de l'approvisionnement en céréales, sachant que les situations sont extrêmement différentes, hein, d'un pays à l'autre. Il n'y a pas un modèle, il y a des modèles. Et on sent que ce n'est pas terminé du tout, qu'il y a toujours une vigilance, va-t-on dire.
Ben justement, ce n'est pas terminé. Et malheureusement, j'ai envie de dire, ça ne va pas terminer de si tôt, même si le conflit se terminait en Ukraine. Le problème, c'est au fond la fragilité de ce système alimentaire mondial, hein, qui repose sur la globalisation déjà, et également sur une insertion finalement inégale des pays du Sud dans le système mondial. avec en plus des divisions issues de la décolonisation, qui fait que les économies des pays du Sud sont extraverties, sont tournées vers l'export, notamment de matières agricoles, vers le marché mondial. Et donc malgré le fait qu'une partie importante de l'économie et de la population fonctionne sur l'agriculture, la plupart des pays du Sud doivent aussi importer. Donc cette division des tâches qui a été plus ou moins laissé au marché dans une situation d'inégalité, fait que ce système est extrêmement fragile et, encore une fois, qu'il est vulnérable à d'autres chocs. Il y a d'autres tensions dans le futur, donc il y a les tensions liées au réchauffement climatique. Les tensions sur les problèmes d'approvisionnement en eau sont déjà là. Le réchauffement climatique fait aussi que les rendements diminuent, ou en tout cas ils n'augmentent pas aussi vite que ce qu'on pourrait espérer malgré l'introduction de nouvelles technologies et d'intrants. Il y a eu aussi, bon là aussi ça, on a vu dans la guerre en Ukraine, les engrais, aussi les engrais chimiques.
Bien sûr.
Il y a aussi un problème d'approvisionnement mondial, puisque la Russie était aussi un des premiers exportateurs mondiaux, que la Chine a cessé d'exporter aussi pour faire face à la crise, donc il y a ce problème-là aussi. Et puis il y a le problème aussi de l'augmentation des prix des transports. Là aussi, c'est quelque chose qui structurellement va continuer dans le futur.
Mais c'est vrai aussi qu'il y a eu un message qui a été envoyé par cette crise, cette double crise, Covid plus Ukraine, un message envoyé au pays du Maghreb, avec quand même, au regard de ce qu'a été ce signal envoyé, parce que très clairement, à partir du moment où on touche aux céréales, on touche au blé, on touche au pain, on touche aux révoltes du pain, donc ça, c'est quelque chose qui est pris avec beaucoup de sérieux, et on peut quand même noter que tous les pays, dans leurs différences, ils sont vraiment différents, mais tous les pays quand même ont su réagir, en tout cas, somme toute, assez réactifs par rapport à cette crise. Quel est un peu le bilan que vous feriez de la réaction des pays du Maghreb face à cette situation qui était totalement exogène ?
Bon, par exemple, je pense que l'Algérie était plutôt exportateur qu'importateur, ou en tout cas qu'elle importait surtout des pays de l'Ouest, donc elle a été moins touchée par la crise. Et puis l'augmentation des prix du gaz sur le marché international a aussi permis l'entrée de devises en Algérie. Ça a été plus compliqué pour d'autres pays, et même si la crise a été résolue dans le court terme, il y a un coût important, en tout cas par exemple pour l'Égypte, le maintien des subventions. Et donc du prix du pain le prix du pain a été maintenu, alors que le cours des céréales s'était envolé sur le marché international. Donc ça a pesé énormément sur le budget de l'Égypte, avec une détérioration des termes de l'échange, avec une inflation aussi qui est extrêmement importante, avec une dévaluation de la livre égyptienne. Donc il y a des conséquences aussi.
Il y a des conséquences, mais il y a aussi des reprises en main. Par exemple, les Égyptiens, ils sont en train de réfléchir à un projet d'irrigation, de détournement d'une partie des eaux du Nil pour créer un deuxième canal qui pourrait irriguer de grandes zones désertiques, et un petit peu comme ça avait été tenté en Libye sous Kadhafi, de créer donc des zones d'irrigation, donc créer des zones de production de céréales. Donc pour revenir à cette notion de prise de conscience, certainement il s'est passé quelque chose, parce qu'on a touché en fait à quelque chose de vital finalement pour tous ces pays de la région, n'est-ce pas?
Tout à fait. Il y a une prise de conscience de ces pays, et je pense aussi qu'il y a une prise de conscience des pays du Nord, et notamment de l'Union européenne, que cette question-là ne pouvait pas être laissée déjà aux politiques nationales, à l'aide humanitaire, qu'on était face à quelque chose de plus profond et de plus structurel, et qu'il fallait repenser un peu le système alimentaire mondial. Donc il y a quand même une réflexion qui se fait en ce sens aussi au niveau des pays de l'Europe et de l'Union européenne aussi, avec l'idée qu'il faudrait peut-être associer davantage les pays du Sud aux politiques européennes en matière agricole, parce que pour l'instant c'est pas le cas. Donc là aussi, avec ces dernières années, les politiques qui avaient été faites par l'Union européenne étaient faites sans penser forcément aux conséquences, aux impacts que ça pouvait avoir sur les pays du Sud. Donc notamment la décarbonation de l'agriculture en Europe qui a été pensée sans penser à un changement des attitudes alimentaires, donc qui va se traduire par une baisse de la production européenne et une augmentation, enfin en tout cas sans diminution de la consommation, ce qui va entraîner aussi une hausse des prix qui va impacter aussi les pays du Sud. Donc ça, aujourd'hui, c'est de plus en plus contesté. On parle de plus en plus de réfléchir à ces impacts et d'associer les pays du Sud aux politiques agricoles européennes. Ouais. Donc il y a aussi l'idée qu'il faudrait sans doute déglobaliser au moins cette partie-là de l'économie, hein, donc la partie qui concerne l'alimentaire. sachant qu'encore une fois, les coûts des transports ne vont pas structurellement vont continuer à augmenter dans le futur. Donc il faut repenser un peu l'organisation, le partage des tâches au niveau mondial.
Mais là, ça veut dire que quand vous dites partage des tâches, ça veut dire équilibre, capacité à se parler. On sait que parfois le dialogue est difficile entre les pays d'une même région, sachant qu'il y a aussi peut-être aussi quelque chose qui est né suite à cette affaire ukrainienne, c'est l'idée de la souveraineté, du maintien de la souveraineté, de la capacité économique de chacun des pays, même on peut dire de l'espace euro-méditerranéen, on peut ouvrir le spectre au-delà du Maghreb. Aujourd'hui, cette question alimentaire, on sent que c'est au sens premier du terme une affaire de souveraineté. Et à partir du moment où cet alimentaire n'est plus uniquement un vecteur économique, mais aussi une économie qui engage la pérennité d'une nation, autour de la table de négociation, ça ne se passe plus tout à fait de la même façon. Donc aussi, il va falloir qu'on arrive à se parler, sachant que l'Union européenne, est-ce qu'on peut dire que c'est un intervenant qui est neutre ? Point d'interrogation.
Alors oui, en fait, on pourrait plutôt parler de retour de cette notion de souveraineté alimentaire
qui avait
un peu disparu dans les années 80, politise finalement ces questions qui avaient été laissées au marché, à l'économie, enfin repolitise ces questions. Alors est-ce que l'Europe est un acteur neutre ? Évidemment non, personne n'est neutre, je pense, mais disons que l'Europe est sans doute plus neutre que les États qui la composent. Parce que chacun d'entre eux a sa zone d'influence, son passé colonial, ses partenaires privilégiés. Donc l'Union européenne est probablement un interlocuteur plus... Alors, est-ce que neutre, c'est le terme ? Non, mais peut-être plus balancé.
Plus équilibré, oui, on peut dire ça.
Plus équilibré, voilà. Oui, dans sa vision de la politique agricole et de la coopération aussi avec les pays du Sud. Le fait est qu'encore une fois, il y a tout qu'à revoir, parce que beaucoup de choses avaient été laissées à l'humanitaire et aux politiques d'aide au développement, qui doivent être pensées aujourd'hui différemment, de manière plus holistique, finalement. Donc, essayer de coordonner finalement la politique agricole avec la politique aussi de transition vers une agriculture plus durable, vers un changement des modes de consommation des Européens, et de mettre ça en relation donc avec les politiques de développement et l'aide humanitaire aux pays du Sud. Donc c'est un énorme chantier, évidemment. La question aussi, c'est qu'encore une fois, on peut sans doute plus, ou en tout cas, il serait très dangereux de continuer comme avant, avec une agriculture qui est tournée vers un marché global. Donc il faut penser les choses plus localement. Mais en même temps, le réchauffement climatique rend les systèmes vraiment locaux beaucoup plus vulnérables. Une sécheresse, une invasion de criquets, une maladie qui se répand dans une région peut vraiment paralyser aussi la production agricole dans un pays donné. Donc la solution, c'est plutôt une intégration régionale, finalement, au niveau du Maghreb arabe et sans doute de toute l'Afrique, avec une complémentarité ici qui se penserait plus au niveau africain ou au niveau peut-être méditerranéen. En tout cas, l'échelle pertinente n'est ni le monde global, ni la nation. Il faut penser à une échelle régionale.
Oui, c'est ça, parce qu'en fait, c'est quelque chose dont on s'est rendu compte avec l'économie verte, quand celle-ci a vraiment fait une éclosion au nord de la Méditerranée, quand celle-ci arrive au sud, on se rend compte, c'est un peu comme si ce n'était pas tout à fait les mêmes langages qui pouvaient être appliqués aux mêmes situations, parce que l'agriculture, pour ne serait-ce l'agriculture tunisienne, algérienne, marocaine, qui sont chacune spécifiques, c'est vrai que les enjeux de l'économie verte, ne serait-ce créer un marché du bio, c'est extrêmement compliqué dans nos régions. Alors, ça existe, il y a des efforts qui sont faits, mais c'est quand même quelque chose qui est assez, assez terrible quand on pense en termes de flux, ce qu'est cette relation entre le nord et le sud. C'est vrai que c'est un peu comme si on passait des années 2000 où on avait, c'était un monde très mondialisé, enfin très mondialiste, dans la perception qui était espérée de l'avenir. Et là, c'est comme si en fait on retrouvait, dites-moi si l'expression est exacte, mais comme s'il y avait une sorte d'économie des blocs qui était en train de se créer avec d'une part l'Est, d'autre part l'Asie, et puis l'Europe qui travaille avec ses pays, ses partenaires historiques au Maghreb. Je ne sais pas, quel est votre ressenti par rapport à ça ?
c'est sans doute en partie le cas, hein, d'autant qu'effectivement il y a une logique d'affrontement qui se met en place au niveau mondial, mais alors sachant qu'en plus l'Afrique de manière générale et en partie le Maghreb sont aussi une zone disputée par les grands acteurs, donc l'Union européenne, les États-Unis, la Chine, la Russie, tous essayent d'intervenir, et c'est aussi quelque chose qui pose problème dans la mise en place d'une politique au niveau régional, c'est que ces économies sont tournées aussi vers l'exportation, vers différents acteurs. Alors vous parliez du bio, de l'agriculture bio. Alors c'est aussi quelque chose, c'est un des outils probablement de l'Union européenne qui pourrait le mieux fonctionner dans le futur. Hein. C'est tout la transition verte de l'Union européenne et ses partenariats verts. Donc on sait que le Maroc est pionnier à ce niveau-là. Hein. Donc c'est le premier pays à avoir signé un partenariat vert, donc qui est un accord cadre très large sur la décarbonation de l'économie, sur l'agriculture durable, sur la gestion durable des forêts, etc. Qui fait plus ou moins figure de modèle qui pourrait être ensuite appliqué à d'autres pays. Et donc revoir aussi là les relations de l'Union européenne avec les pays du Maghreb de manière plus holistique, avec cette idée de transition écologique finalement comme ligne directrice qui organiserait ensuite différentes politiques dans une optique commune.
Qu'est-ce qu'on a à retenir finalement de cette guerre d'Ukraine qui n'est toujours pas terminée, et on sait que l'issue hélas n'est pas pour les prochaines semaines, hélas même pour les prochains mois. Quels sont les éléments à mi-parcours, enfin mi-parcours c'est même assez pessimiste de dire ça, mais quels sont les éléments de parcours que vous pourriez nous transmettre sur les enseignements du coût économique qui a été ce drame où du jour au lendemain on s'est retrouvé avec un jeu des situations qui étaient complètement différents. Quels sont les éléments que vous retiendrez, Clément Stueur?
Alors déjà, donc oui, la vulnérabilité du système économique et notamment alimentaire mondial, mais aussi une prise de conscience justement de l'interdépendance, hein, et du fait qu'on pouvait plus penser ces politiques séparément, et que ce qui se passe en Ukraine a un impact sur l'Afrique et sur le Maghreb, ce qui se passe en Afrique et le Maghreb a un impact sur l'Europe de l'Ouest. Un impact aussi, on l'a vu avec la crise ces derniers mois, les manifestations des paysans en Europe aussi. Donc cette crise a également un choc en retour finalement pour l'Europe. Donc on ne peut plus penser ces choses-là de manière séparée. Donc en fait, le principal enseignement, c'est qu'il faut, revoir un peu cet ordre qui unipolaire, hein, qui s'était mis en place suite à la chute du mur, et probablement de remettre de la politique là où on avait laissé beaucoup de choses, encore une fois, à l'économie, au marché, et notamment en matière agricole.
Est-ce à dire qu'il faut aujourd'hui développer, au sens premier du terme, des diplomaties économiques?
Alors, elles existent déjà, mais peut-être des espaces... je sais pas, honnêtement, je n'ai pas de solution clé en main.
Oui, bien sûr.
Mais malheureusement, mais en tout cas, qu'il faut davantage penser, encore une fois, oui, réintroduire de la politique dans ces questions alimentaires et agricoles, qui avaient été laissées vraiment au marché pendant 30, 40 ans, avec des choses qui ont fonctionné, en tout cas pour certaines personnes pendant un certain temps, mais qui aujourd'hui montrent leurs limites. Ouais.
Mais pourquoi ça n'a pas marché, d'ailleurs? Parce qu'à la limite, j'ose pas dire l'avocat du diable, enfin si on revient sur ces fondamentaux, par exemple du libre-marché ou dans une autre posture idéologique qui est celle de la mondialisation, nous sommes tous des frères, tout va bien, hein, pourquoi ces grandes idées ont échoué, qui étaient, je veux dire, l'une et l'autre, pour des raisons totalement diverses, elles avaient des qualités. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Est-ce qu'aujourd'hui on sait pourquoi ça n'a pas fonctionné?
Alors je pense qu'il y a deux choses. D'une part, c'est des idées qui ne prenaient pas en compte les déséquilibres structurels, les inégalités, hein, finalement, qui étaient héritées de la période coloniale, qui faisaient comme si ces inégalités n'existaient pas. Et l'autre chose, c'est tout simplement les limites de la planète en termes de ressources. Hein, et là aussi, on a commencé déjà à atteindre ces limites, et avec des conséquences sur les systèmes agricoles et sur l'économie qui commencent tout juste, finalement.
Oui, mais Alors c'est intéressant parce que quand vous dites ça, il y a quand même des pays aujourd'hui qui ont des ressources agricoles absolument extraordinaires et qui sont sous-exploitées. Donc on a quand même parfois sur certains États-nations, on a des pays qui sont des greniers à blé, hein, notamment je pense à l'Algérie. Hein. On est, oui. C'est un pays qui a été pendant très longtemps un grenier à blé en agrumes, etc. et qui aujourd'hui a une agriculture qui est quand même à bout de souffle. Donc effectivement, c'est-à-dire que ça, si vous voulez, les grandes crises Covid Ukraine aussi sollicite de façon très, très brutale finalement ce que sont la réalité des marchés alimentaires nationaux. C'est, et parfois de façon pas très agréable. Hein. C'est...
Non.
Ouais.
Mais non, mais que... oui. Bon, justement, il y a un potentiel, évidemment, c'est aussi, il y a de l'espoir à ce niveau-là, il y a un potentiel de développement dans beaucoup de pays. Justement, ce potentiel avait été sous-exploité, justement, du fait de cette mondialisation qui prenait pas en compte les inégalités. Ouais. Donc, en repensant les circuits, en repensant les marchés, en repensant aussi l'adaptation des techniques, à la manière dont les agriculteurs fonctionnent finalement au niveau local, avec un savoir-faire qui est là depuis sans doute parfois des siècles ou des millénaires, en adaptant, en essayant de trouver une adaptation entre les deux plutôt que d'imposer des recettes venues du Nord. Donc en un mot, en ayant finalement une politique moins inégale,
ouais.
Y a aussi effectivement, comme vous le dites, oui, des potentiels inexploités qui peuvent être mis à contribution. Et encore une fois, en connectant davantage les économies au niveau régional, on peut aussi trouver énormément de potentiel dans les années qui viennent.
Alors pour ce qui est des mesures d'accompagnement de ce monde nouveau vers lequel on espère se rendre pour aller vers des situations plus équilibrées, aussi plus apaisées, plus sécurisées, hein, pour les États. Qui doit payer ? Est-ce que ce sont les organisations internationales ? Est-ce que c'est l'OMC qui est un petit peu concernée ? Est-ce que c'est, l'OCDE ? Ou est-ce que ça doit être, finalement, ça doit résulter de financement propre au pays, en se disant, bah, voilà, ils sont concernés au premier chef. Comment faire pour mettre tout ça en place ?
Tout le monde est un peu concerné. Donc vous avez cité plusieurs organisations internationales. Il y a aussi l'Union européenne. Encore une fois, il s'agirait aussi de repenser beaucoup de politiques, hein, notamment donc les politiques d'aide au développement et politiques agricoles. Repenser aussi les incitations aux investissements.
Ouais.
Donc ça permettrait tout ce qui est aussi microcrédit, etc. Donc en repensant ces politiques,
Oui, en les repensant, mais ça a un coût tout ça. C'est-à-dire que...
qui existent déjà,
ouais.
qui ne sont pas toujours pensés en coordination, qui sont pas vraiment pensés en coordination de nos jours, on peut arriver à des meilleurs résultats. Ouais.
Absolument. Mais cela dit, juste je me permets d'insister sur ce point et on finira avec ça, mais est-ce qu'on peut faire ça avec zéro centime et beaucoup de neurones, ou est-ce qu'il faut à un moment donné mettre la main à la poche, et qui doit le faire, d'où doit venir l'initiative ? Parce que, encore une fois, on est sur des questions qui sont absolument, au sens premier du terme, qui sont vital pour les nations.
Oui. C'est là aussi. L'argent vient probablement en partie des organisations internationales que vous avez mentionnées, de l'Union européenne, qui pour l'instant n'a pas un budget suffisant, hein, pour.
Ah bon?
Pour ce genre de choses.
D'accord.
Mettre plus d'argent sur la table pour développer le. L'agriculture au niveau international, enfin pensez au plan Terre Verte, hein, qui a été fait avec le Maroc, c'est 115 millions d'euros. Alors ça paraît beaucoup, mais c'est vrai que si on compare à ce qui est dépensé encore aujourd'hui pour trouver des nouveaux gisements de pétrole, c'est très peu. C'est très peu. Donc, oui, le Nord, encore une fois, est concerné et devrait aussi mettre la main à la poche pour ce genre de choses. Mais alors en essayant de ne pas décourager non plus l'investissement privé, donc là il y a quelque chose aussi qui...
Oui, il y a un équilibre à trouver. Hein.
Oui.
Merci Clément Stueur, merci beaucoup pour l'ensemble de vos explications, pour cette analyse qui est tout à fait intéressante pour nos régions. On reste au Maroc, puisque ce 16 mai, le Royaume a commémoré les 21 ans des attentats suicides qui avaient frappé la ville de Casablanca, faisant 33 victimes et une centaine de blessés. Personne n'a oublié ces jours douloureux où des cellules terroristes sont passées à l'action depuis, elles ont été démantelées. Et c'est vrai qu'il est intéressant, plus de deux décennies après, de faire le point, et notamment sur les mécanismes socio-économiques qui ont été usités par le Royaume du Maroc pour travailler au retour à la vie civile, à la vie normale, à la vie usuelle de ceux qui avaient commis le pire. Je vous propose d'écouter Hicham Mouattedid, qui est expert en stratégie politique à Vancouver. Il fait le point sur ces initiatives socio-économiques qui ont été initiées par le Royaume du Maroc.
C'est une stratégie qui a été adoptée par le Maroc après les attentats, et ça fait partie du pilier en fait socio-économique afin de permettre en fait à ce nombre de jeunes de s'insérer dans la société sans difficulté après leur libération. Comme vous le savez, c'est une approche qui a été adoptée par plusieurs pays et qui a donné des résultats très importants et bénéfiques, que ce soit pour l'État comme pour la société. Et c'est une manière aussi de les accompagner, de corriger leur manière de voir les choses, mais aussi d'encadrer leur attachement à un certain nombre d'idées radicales. Je pense que les résultats étaient là. Il y a un certain nombre en fait de personnes qui ont profité de ces formations et qui sont actuellement et aujourd'hui des acteurs positifs au sein de la société après la sortie ou après leur libération.
Hicham Mouattedi, de qui était au micro de Mélanie Pinto. Voilà, c'est sur ces mots que s'achève Economia. J'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Je vous souhaite une excellente semaine à tous à l'écoute de Radio Méditerranée Internationale.